Bienvenue sur Radio Pluriel, 18h passé de 8 minutes. On va revenir aujourd'hui sur cette grande fête de lutte ouvrière qui se déroulera le samedi 23 et dimanche 24 septembre dans l'Est lyonnais. C'est à Saint-Priest, à l'espace Mosaïque, comme chaque année en tout cas. Une grande fête pour tous les sympathisants et militants aussi de lutte ouvrière. On y retrouvera des débats, du spectacle, expositions, animations, mais aussi pour cet exposé scientifique avec de la science qui sera proposé, de la vidéo, du documentaire. On peut dire que c'est une fête pleine en tout cas pour qui va permettre aux sympathisants et aux militants de se retrouver durant ces deux jours. Notre invité avec Jean-Charles Fagnoux, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, très heureux de vous accueillir, ici même sur l'espace de Radio Pluriel, ici dans ce studio. Alors, la fête de lutte ouvrière, c'est une fête annuelle qui a lieu ici dans l'Est lyonnais. Cette année, vous retrouvez l'espace Mosaïque. On sait qu'il y a une année, il a fallu partir parce que l'espace Mosaïque était occupé à cause du Covid. Ça n'a pas été simple, en tout cas pour vous. Vous avez changé d'endroit, mais ça s'est passé quand même, bien entendu. Alors, beaucoup de choses qui vont être développées pour cette fête de lutte ouvrière. Comment s'organise, comment se coordonne cette fête de lutte ouvrière à Saint-Priest pour ce week-end, sachant que vous êtes présent aussi, il faut le dire, à la 76e édition de la foire de Saint-Priest en tant qu'exposant sur la rue Henri Maréchal.
Exactement. Et ben oui, donc ça fait 20 ans qu'on fait la fête à Saint-Priest. Mmh. On y est présent, on y milite, cette fête, comme chaque année, c'est l'occasion de se retrouver entre travailleurs pour parler de nos problèmes, parce que la situation elle s'aggrave d'année en année. Mais nous, on pense que c'est l'occasion de pouvoir en discuter, débattre entre nous des problèmes. Donc il y aura notamment Nathalie Arthaud le samedi soir qui sera là pour débattre.
Elle va donner celle qui va donner le là, qui va donner le top départ.
Exactement, à 19h à l'espace Mosaïque pour parler des problèmes des travailleurs, l'inflation, mais aussi la marche à la guerre, parce qu'en ce moment, on nous parle tout le temps de ça. Et donc nous, on pense que c'est important quand même qu'entre travailleurs, on en parle, parce que qui sait qui en général est envoyé quand même à la guerre pour se battre, pour cela, ce sont les travailleurs, ce sont les ouvriers, les gens normaux, c'est nous qui sommes envoyés pour se battre, et donc on pense qu'il faut en discuter, parce que c'est avec notre peau que tout ça est fait, et pendant ce temps-là, bien sûr, les entreprises, elles font du profit, elles continuent à s'en mettre plein les poches, alors que c'est de plus en plus dur pour nous pour vivre. Donc c'est un peu de ça dont on veut discuter. On n'a qu'à regarder quand même
Quand vous dites les entreprises, parce que c'est bien quand même
les grands groupes du CAC 40.
Il faut bien centraliser. On enlève bien entendu, je pense, vous êtes d'accord avec moi, les PME.
Ça dépend ce qu'on entend par PME.
Les petites entreprises aussi.
Je parle pas de la boulangerie du coin en tout cas.
Oui, mais... Quand je parle des PME, c'est les SARL.
Ça dépend lesquels. Il y en a qui font quand même beaucoup d'argent malgré tout. Ça dépend lesquels c'est. Il y en a qui sont considérés comme des PME qui sont au CAC 40 en réalité.
Je parle des petites PME, les artisans.
C'est des gens qui essayent de s'en sortir et qui travaillent.
Mais après, en tout cas, ont des difficultés quand même. Faut pas l'oublier que le Covid a laissé des traces quand même. C'est notamment pour ceux qui ont emprunté.
Je suis bien d'accord, mais en fait, nous, on pense justement
juste pour savoir que vous ciblez bien les entreprises du CAC 40, on est d'accord.
Nous, c'est les actionnaires qu'on cible principalement.
Ah, les actionnaires,
les grands groupes. Mm-hmm. C'est des gens en chair en os, c'est pas des inconnus. Mm-hmm. C'est justement des gens comme Bernard Arnault, comme la famille Bolloré, la famille Muliez qui est à Auchan, qui soient d'ailleurs actionnaires ou propriétaires de grands groupes, parce que des fois, ils n'ont pas forcément mis leurs entreprises en bourse. En tout cas, ces gens-là, ils sont riches à milliards. Et il y a peut-être des petites entreprises qui ont des soucis, mais en tout cas, y compris les ministres, les différents politiciens, ils versent souvent une larme sur les petites entreprises qui galèrent. On voit plein de reportages en ce moment sur les boulangers qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Par contre, les travailleurs qui ferment, mais les gens des quartiers populaires, les gens des cités et des cités populaires de banlieue, ça, tout le monde s'en moque, peu de personnes en parlent, alors que c'est quand même des galères au quotidien et que quand même c'est la classe ouvrière globalement qui fait tourner quand même toute la société. Ceux qui ramassent nos poubelles le matin, ceux qui construisent les voitures dans lesquelles on roule, les vêtements qu'on porte, les immeubles dans lesquels on vit. Donc nous, c'est ça dont on a envie de parler, c'est entre travailleurs qu'on a envie de se retrouver. Alors vous avez parlé des militants et sympathisants, bien sûr, on sera présents, mais pas uniquement. Tous les gens qui, en fait, se reconnaissent dans ce combat à mener, dans ces idées-là, qui ont envie de passer un moment convivial.
On n'est pas obligé d'avoir sa carte pour venir à la fête de lutte ouvrière.
Ah oui, faut avoir sa carte d'entrée, mais pas la carte à lutte ouvrière.
On paye une carte d'entrée à 10 euros sur place.
À 10 euros sur place, ou 7 euros si vous nous contactez en avance.
D'accord. Enfin, très vite parce que c'est ce week-end.
C'est ça, il reste 2-3 jours, pas plus.
Concrètement, tout le monde peut venir.
Ah oui, c'est ouvert à tout le monde, comme on dit. Nous, en fait, c'est tous les gens qui partagent ce combat, qui ont envie de passer un moment convivial. Il y a comme un buffet.
Qui veulent découvrir justement les actions du tour hier.
Qui veulent aussi nous découvrir. C'est l'occasion de boire un verre, de manger un bout. justement une ambiance sympa entre nous pour discuter de tout ça, débattre. Et puis des fois un peu, c'est aussi, comment dire, ce qu'on nous dit au quotidien quand même, c'est que depuis qu'on est né, depuis l'école, quand on travaille, en fait, il y a toujours des gens au-dessus de nous qui savent mieux que nous, qui nous donnent des ordres, qui nous disent quoi faire. Et ben nous, on pense qu'en tant que travailleurs, quand même, au quotidien, dans notre boulot, on sait sûrement ce qu'on fait. On sait très bien faire notre boulot, on sait quoi faire, et ben on serait capable de gérer cette société et bien mieux que ce que font les capitalistes aujourd'hui. Et Nathalie Arthaud, c'est de ça dont on a envie de parler en partie dans le débat qu'elle animera, c'est qu'en tant que travailleur, et ben on est capable de faire tout ça. Il faut qu'on arrête de penser justement sur les chaînes qu'on a, ces chaînes elles sont dans notre cerveau.
Mais bon, on voit pas la télévision, Nathalie Arthaud, on la voit pas. Elle est présente où? Moi j'aimerais qu'on me dise oui, mais même dans la presse écrite, même mais en radio, France Inter, chez nos collègues de France Inter, Europe 1, RMC, Info,
merci de nous inviter en tout cas.
RTL, nous vous invite, oui.
On est très peu invités dans les médias.
Avec plaisir, mais c'est ça que moi je... excusez-moi de vous le dire, mais Nathalie Arthaud, elle brille par son absence, quoi, quelque part.
Bah, ça, c'est pas de notre fait, ça, c'est le fait qu'on n'est pas invité, à part, comme je dis,
le service de communication qui, je pense, il y a quand même plus de 3000 radios associatives en France, il y a plus de 6000 radios. Hors radio associative, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ce soir, vous allez faire passer votre message.
Exactement.
Moi, je le fais avec plaisir, bien entendu. Mais moi, j'aimerais bien entendre Nathalie Arthaud aussi également. Je pense que
malheureusement, venir à 19h samedi,
c'est un peu compliqué pour nous puisqu'on est sur la foire de Saint-Priest, mais ça aurait été avec plaisir et de connaître justement connaître le discours de Nathalie Arthaud en 2023, parce que j'imagine que ce n'est pas le même qu'elle a pu avoir pour les dernières présidentielles en 2020.
Bah, ça dépend, ça s'appelle le même. On partage le même combat, c'est
les communistes révolutionnaires. Oui, le combat, il est le même, mais bon, voilà. Des idées qui ont différé.
La situation s'aggrave, donc ce qu'on dit, ça s'adapte à ça, effectivement.
Ça, ce n'est pas une nouveauté.
Pendant longtemps, c'était le problème des salaires, des conditions de travail qui se dégradent, mais là, il y a quelque chose qui se rajoute en plus, c'est le fait que, quand même, il y a plein de discours va-t-en-guerre, notamment de Macron, qui nous disait au mois de juillet qu'il fallait faire nation. Il nous parle le SNU, donc je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais c'est le Service National Universel. C'est pour que des lycéens ils fassent des colonies de vacances de 2 semaines, tout frais payé par l'État, donc ça peut sembler sympa au premier abord, alors qu'en réalité, c'est quand même tous les matins, drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, au garde à vous. Si ça venait d'un autre pays, on trouverait que ce serait de l'embrigadement de la jeunesse.
D'accord.
Mais vu que c'est chez nous, ici, et que c'est présenté comme quelque chose justement pour faire citoyen, faire nation, ça peut être bien vu. Mais sauf que c'est comme ça qu'on met dans le crâne pour que dès qu'on soit tout petit ou jeune, qu'on soit un peu au garde à vous face à tout ça. Les budgets militaires, ils explosent entre ceux de quelques années en arrière et la projection pour 2030. Ça va environ doubler ou plus.
Et vous l'expliquez comment justement que ces budgets militaires explosent?
Il y a plusieurs raisons, mais moi je pense que c'est la crise du capitalisme. Et la crise du capitalisme, en fait, c'est que les capitalistes sont en concurrence entre eux de plus en plus. Ils font des profits records et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils nous font payer à nous la crise, mais tout ça a des limites. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont devoir la guerre qui se font économique, elle risque de devenir une guerre tout court. Et la guerre qui est en Ukraine actuellement, il ne faut pas qu'on voit ça comme c'est le bout de l'Europe, c'est un peu loin. Voilà, c'est ce qui nous attend peut-être demain, en réalité. Les militaires eux-mêmes, ils le disent, hein, c'est pas à moi, c'est pas à nous, lutte ouvrière, qui disons ça. Ils s'attendent à des conflits de haute intensité, où ils prévoient des morts comparables à des guerres du passé, qu'on apprend dans les livres d'histoire. Ça veut dire revenir à plus de militaires, plus de budget, plus d'armes. Donc c'est quand même un pactole pour les marchands d'armes. Eux, ils s'en mettent plein les poches. Par contre, qui risque demain de se faire crever la peau avec ça?
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on a une armée de métier.
Pour l'instant, ça peut peut-être changer.
Depuis l'arrêt du service national, la France est devenue une armée de métier qui est beaucoup plus faible en effectif militaire qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi pour des raisons, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des conflits 20, 25 ans après.
En tout cas, les gens.
Ça faut en tenir compte quand même.
Les militaires du
aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Il y a quand même des gens qui réfléchissent dans ce pays, heureusement, ça c'est sûr. Le conflit militaire, je pense qu'on en a parlé aujourd'hui. Vous parlez peut-être de.
Mais pourquoi
par rapport à Poutine, par rapport à ce qui se passe en Russie
par rapport à
ce qui se passe au Niger.
Il y a les deux. Mais déjà, pour qui ils réfléchissent? Moi, je pense qu'il y a plein. Les politiciens, ils réfléchissent, mais ils réfléchissent dans l'intérêt de la bourgeoisie, pas l'intérêt des travailleurs. Et eux, ils pensent effectivement il faut préparer une défense. Mais se défendre contre qui? Voilà, ils vont nous dire, il y a Poutine, il y a le Niger, il y a le Gabon, sauf que qui c'est qui pillait au Niger, au Gabon, il n'y a encore pas longtemps? Eramet, un groupe de minerais français, Orano, ex-Areva pour l'uranium au Niger quand même, c'est un pillage, d'accord, ils l'achètent formellement, mais ils l'achètent tellement faiblement que c'est vraiment un pillage, c'est des restes des colonies, c'est comme autant des colonies en réalité, et donc quand même, et après on nous dit en France là, que derrière il y a Wagner et la Russie derrière ce coup d'État, j'ai envie de dire
Niger, il ne faut pas l'oublier parce qu'on veut aller sur la batterie sur les voitures électriques. Niger, c'est quand même le pays qui produit le cobalt et lithium essentiel pour les batteries, pour les moteurs électriques aujourd'hui. Si on n'a plus, on n'est plus en accord avec le Niger, ça va être quand même très compliqué. Hein. Ça s'est éprouvé.
Parce que vous et moi, c'est pas nous qui avons des accords, c'est pas nous qui avons
le gouvernement, tout ça. La France, oui, c'est la France entre autres.
Français, et derrière,
la France, l'Allemagne, l'Europe,
les grands groupes industriels. Et c'est bien de parler de ça, si on a des débats par rapport à ça, si on a une exposition.
Les accords qui ne passent plus, bah, ça va être très compliqué pour pouvoir trouver justement la matière première pour produire les batteries, entre autres au Niger, avec le cobalt et le lithium.
Mais justement, en fait,
il n'y a pas que ça. Et puis après, bon, je vous le disais aujourd'hui, et voilà, c'est. Moi, ce que je veux savoir, c'est bon, c'est vrai qu'on s'en prend beaucoup aux riches, mais est-ce que vous ne pensez pas que les riches, on en a besoin aussi pour pouvoir subvenir par rapport au coût de la vie en France, parce que ce sont quand même les riches qui payent le plus d'impôts, en tout cas. Vous savez qu'en France, actuellement, ça s'est éprouvé, il y a 6 grandes fortunes qui partent par jour en France. 6 grandes fortunes. Il y a moins en moins d'actifs en France, ça s'est aussi prouvé. Il y a moins en moins d'actifs, donc qui va payer demain?
En tout cas, la première rentrée d'argent de l'État...
Répondez à ma question, qui va payer demain?
En tout cas, c'est les travailleurs tous les jours qui payent déjà, d'abord, je trouve. Et les riches, en fait, c'est pas eux qui payent le plus. Qui payent le plus, c'est leur première entrée, c'est la TVA.
Il y a les SF.
La TVA, c'est nous tous qui la payons.
Il y a les SF,
monsieur. Pour la première rentrée d'argent liée à la TVA, qui c'est qui le paye proportionnellement le plus? C'est les plus pauvres. Parce que sur un paquet de pâtes, 50 centimes sur un paquet de pâtes, enfin j'invente un prix là, c'est plus élevé si on est pauvre que si on est riche. Si vous gagnez 500 euros par mois, 2000 euros par mois, ou 1000 euros toutes les secondes ou quelques secondes comme Bernard Arnault.
Je ne suis pas là pour défendre les riches, mais je me pose aussi les questions aussi en tant que journaliste. Ça, on le sait. Aujourd'hui, les entreprises du 440, même qu'on parle Bernard Arnault, c'est le premier employeur en France. Bernard Arnault, aujourd'hui, actuellement,
c'est le plus riche de France, mais je crois pas que ça soit un employeur. Il a fermé quasiment toutes ses entreprises.
LVMH, c'est quand même un très gros groupement, quand même. Et il n'y a pas que lui, il y a quand même une très grosse masse salariale. La masse salariale, ça rentre directement dans les caisses de l'État.
On ne
peut pas dire le contraire, c'est l'URSSAF.
Cet homme-là, il a racheté pour 1 franc symbolique à l'époque le groupe Boussac, qui était un groupe, un empire du textile franco-européen, quoi, français, et donc exploiter le coton des anciennes colonies françaises. Et en fait, il a eu pour un franc symbolique avec plein d'aides de l'État en termes de millions de francs à l'époque. Mmh. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa conquête financière et qu'il est devenu riche. C'est pas non plus par. Et c'est quand même plein de travailleurs et beaucoup de travailleuses dans le textile, dans la maroquinerie, etc., qui, elles, petit à petit, ont vu leur site de production fermé et elles gagnaient des salaires qui étaient à peine supérieurs au SMIC jusqu'à la fin de leur carrière. Avec leur vie, quand même, des fois, leur dos, leurs mains, leurs articulations cassées par ça. Et lui, il a fait sa fortune, il est devenu milliardaire sur ces gens-là. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand même, parce que là, on nous parle beaucoup de lui.
Après, il y a les embargos. Je vous prends le cas dont on parlait justement de la maroquinerie. Vous prenez l'entreprise Zili, qui appartenait à monsieur André Chimel, Alain Chimel, pardon, qui était dans le 9e arrondissement de Lyon, qui a été racheté par les fonds de Dubaï quand même.
Ils se mènent de la guerre, les capitalistes, entre eux. Sauf qu'en fait, c'est la loi de la jungle. Et les plus forts, ils s'en sortent plus fortement, ils sont contents.
Victime de l'embargo qui a été fait sous François Hollande. Avec les Russes. Faut bien replacer les choses dans leur contexte.
Si vous êtes fort, tout se passe bien. Si vous êtes faible, ça se passe moins bien. Et les capitalistes, il y en a des plus forts et des plus faibles. Les armes, vous inquiétez pas, ils ont vendu des armes sous Hollande aussi à la Russie. Ils continuent à les livrer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est les contrats qui ont été faits avant l'embargo. Donc ils n'ont aucun problème pour faire ça. Ce que je voulais dire aussi, juste avant de poser cette question-là, c'est qu'en fait, il y a des débats ou d'expositions à notre fête qui parlent des sujets dont on est en train de parler actuellement, vous et moi. Mm-hmm. Notamment, dès le samedi à 17h ou 17h30, il y a un commentaire d'expo justement sur l'impérialisme français au Sahel, où on ne parle pas du Niger, mais aussi du Mali, Burkina Faso, toute la situation là-bas.
Au Burkina Faso, la situation est très critique actuellement, c'est une certitude.
On parle aussi de.
Très compliqué d'ailleurs.
Il y a un expo scientifique aussi sur les batteries électriques. Justement, sur la fonction des batteries globalement, justement, on nous parle tout le temps du passage à l'électrique. Les trusts de l'automobile, excusez-moi. Les trusts de l'automobile se font une véritable guerre pour justement le passage à l'électrique avec des aides d'État,
la
concurrence.
Faut oublier que sur l'électrique, les Allemands sont déjà passé la marche arrière.
Eux-mêmes ne savent pas trop quoi faire, justement, en fait. Mais ils font des coups de bluff.
On allait sur l'électrique, mais là, eux, par contre, ils ont passé la marche arrière et ils ont dit stop, ZFE. À penser à faire autre chose. Parce que l'électrique, justement, le recyclage, on fait comment?
En fait, de toute façon, c'est le problème globalement du fonctionnement de l'économie capitaliste, c'est qu'en fait, c'est du profit à court terme. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en moquent.
On n'a pas de solution aujourd'hui pour recycler les batteries.
Mais c'est la même chose pour le climat. Regardez là, on a eu des températures records quand même cet été. C'est la canicule. On a eu quand même plein de. Il y a eu des saisonniers qui sont morts lors des vendanges à cause d'insolation ou quoi que ce soit, tellement les chaleurs étaient énormes.
On sait depuis longtemps.
Oui, bien sûr, mais là, ça s'est aggravé aussi ces dernières années, l'impact direct sur les travailleurs, sur les gens.
Quand on voit l'Arctique qui est en train de fondre.
Exactement. Et pourtant, on le sait depuis longtemps, comme vous dites. Et d'ailleurs, Total, un des plus grands groupes de France et du monde, ça a été révélé il y a quelques mois. Depuis les années 70, ils avaient certains de leurs cadres ingénieurs qui savaient que ça participait à ça. Et ils l'ont tenu secret pendant toutes ces années-là. Donc, c'est-à-dire que eux, ils savent très bien quels sont leurs intérêts. C'est le profit à court terme.
Ça, alors, justement, dans la fête de l'Outre-Ouvrière, entre 17h et 19h, vous avez parlé d'électrique. Alors, comment vous avez abordé ce sujet?
Eh bien, déjà, sur le fonctionnement, parce qu'en fait, on n'arrête pas de nous parler, c'est mieux, ça fonctionne bien. Donc, il y a l'aspect, tout simplement, fonctionnement, j'ai envie de dire, scientifique, matériel d'une batterie. Quoi, voilà. Et également, ça a posé les questions de, aujourd'hui, justement, le recyclage, comment ça fonctionne ça. Effectivement, derrière, comment on en produit la matière première liée à la batterie. Comment ça, voilà. Et derrière, les intérêts qu'il y a aussi. C'est ça qui va être. C'est un peu. Après, il y a un topo qui est fait par un camarade au début. Et après, c'est questions, débat avec ceux qui sont présents et en fonction des questions qu'il y a. Donc, on répond aux questions des gens qui seront présents. Mais on parle aussi de la situation, par exemple, dans l'automobile, notamment. Et,
on est présent. L'automobile qui sera bientôt là, bien sûr aussi. Hein, c'est à la fin du mois.
Et nous, on est présent, notamment dans plusieurs entreprises de Lyon, et notamment on posait la question plutôt, avant l'émission de l'Est lyonnais. Et on est présent.
Ce marché automobile, vous parlez de l'automobile avec niveau des concessions, les grands. Oui. Ou vous parlez des équipementiers automobiles?
Là, on parle de tout, et notamment
dans l'ensemble.
Voilà.
Dans l'ensemble.
Et notamment, on a aussi une activité militante sur Renault Trucks, c'est quand même la situation aussi.
C'est plutôt Volvo, non, c'est plus...
Oui, la marque, c'est Renault Trucks, mais le groupe, c'est le groupe Volvo depuis un certain temps quand même, maintenant. Et comment dire, nous, on intervient dans les entreprises aussi, c'est pas juste pour notre fête tous les ans à Saint-Priest, en distribuant, par exemple, par quinzaine, un bulletin d'entreprise, un genre de mini-journal, une feuille recto-verso, avec d'un côté un éditorial qui parle de la situation générale ou internationale, et de l'autre... justement des brèves, des échos sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur les mauvais coups de la direction, sur comment les travailleurs réagissent à ça, pour que les travailleurs puissent s'exprimer aussi par eux-mêmes. C'est ça un peu qu'on souhaite faire.
D'accord. Alors ça, c'est entre 17h et 19h.
Voilà.
Ce samedi, 19h, Nathalie Arthaud qui prendra la parole.
Exactement.
À l'espace Mosaïque Saint-Priest, là aussi, on est quand même sur une figure, Nathalie Arthaud, qui représente au niveau national.
C'est notre porte-parole nationale, effectivement.
Porte-parole nationale de lutte ouvrière. Quels sont les sujets qu'elle va aborder? Vous avez déjà une petite idée, un petit peu, sur les grands éléments de ce débat?
Oui, parce qu'elle compte aborder, c'est un peu ce qu'on a déjà discuté d'ailleurs ensemble, c'est on reste sur la marche à la guerre, les problèmes des travailleurs globalement. Les problèmes des travailleurs, c'est la crise économique qui se durcit, c'est également les conditions de travail, notamment dans l'automobile, mais pas que, les hôpitaux aussi, quand on regarde. Et d'ailleurs, il y aura un débat sur les hôpitaux aussi le dimanche
la crise de l'hôpital.
À 16h45, qui va être animé par deux camarades qui travaillent dans les hôpitaux de Lyon. Voilà, donc elles connaissent très bien la situation. Parce que,
Il
y en a une qui est infirmière, notamment, et l'autre brancardière, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Et qui, en fait, voit très bien au quotidien l'aggravation à la fois du travail pour elle et aussi pour les patients, en fait, pour la prise en charge des patients. Et que d'ailleurs, l'État, il n'a aucun scrupule à faire reposer sur ces personnes-là, quand même, le fait que la vie des gens est entre leurs mains. Et donc, ils jouent sur leur conscience professionnelle pour pouvoir profiter et aggraver la situation des travailleurs des hôpitaux.
Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une médecine à deux vitesses?
C'est sûr que si vous payez dans le privé, c'est pas la même chose que dans l'hôpital public.
Oui.
Sauf qu'effectivement, l'hôpital public, il y a quand même plein de travailleurs et de travailleuses, principalement d'ailleurs dans les hôpitaux, qui, elles, se battent au quotidien pour qu'il y ait une médecine publique, enfin une médecine en tout cas à tous, parce que public-privé, ce sera un des objets d'ailleurs du débat, public-privé, même dans le public, en fait, la finance, elle est présente. Les intérêts privés sont présents. Ouais. Parce qu'ils doivent faire des prêts, rembourser des prêts à des banques.
Après, la sécurité sociale, de plus en plus. Après, on sait qu'on connaît la situation de la sécurité sociale et aussi du budget.
Aujourd'hui, c'est cadeaux aussi aux patrons qui font ça.
Non, mais attendez, l'État est catastrophique. Hein, la dette de la sécurité sociale, c'est un véritable gouffre.
Je suis d'accord, mais la faute à qui?
C'est un cataclysme.
Qui c'est qui, tous les ans, a le droit de moins payer de cotisations et qui n'est pas remboursé par l'État, alors que c'est prévu comme tel? C'est plein d'entreprises. Et d'ailleurs, là, dans l'après-midi, il y a eu une brève de France Info qui expliquait que l'État, pour faire un geste envers l'industrie pharmaceutique, qui déjà se met quand même plein d'argent milliards grâce à la sécurité sociale, oui, notamment des groupes français comme Sanofi, ils vont avoir une réduction d'un impôt, d'un prélèvement qui était fait qui était de entre 1,6 milliard et 2 milliards, ils vont le réduire à 1,4 milliard. Donc en gros, encore plusieurs centaines de millions d'euros de cadeaux de l'État. Et après, on nous dit qu'il manque du budget pour la sécurité sociale et que c'est les travailleurs, les retraités, puisqu'on est retraité, c'est quand même là que les problèmes de santé s'aggravent en général, qui vont devoir payer plus cher pour chaque boîte de médicaments achetés, etc. Mais jusqu'où on va aller comme ça? Les retraites et les salaires, ils augmentent pas, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait qu'ils suivent le coût de la vie, ce serait le minimum pour survivre.
Et forcément, ah oui, il faut qu'on indexe le coût de la vie par rapport au salaire. Ça, c'est une certitude depuis l'Antiquité, on va dire.
Sauf que ça ne se fait pas pour autant.
Ça ne se fait pas pour autant. Il faudrait demander à notre ministre de l'Économie et des Finances son avis en direct.
Ouais, ou surtout directement au patron qui nous paye, parce que c'est eux qui font les profits. Quoi. Le ministre, c'est un peu leur, c'est leur domestique, hein, le ministre ou les présidents pour faire. Ouais,
et là, pour donner la trame, on va dire. Hein. Et puis.
Ou pour s'exécuter.
C'est Alors, cette fête de lutte ouvrière, c'est 2 jours.
Exactement.
Alors et durant ces 2 jours, je le disais tout à l'heure, on a du débat, bien sûr, ce qui est avant tout, bien entendu, la priorité, mais aussi des spectacles.
Exactement.
Alors, quel genre de spectacle on va retrouver durant ces deux journées?
Et ben, principalement des concerts, de la musique. Donc, notamment, il y a un karaoké, il y a du rap, du reggae africain, des groupes plutôt pop ou rock. Voilà. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, pour ceux qui ont la musique, ceux qui aiment bien aussi chanter.
C'est le côté festif de la fête.
Voilà. Alors, il n'y a pas que ça dans le côté festif, je reviendrai après. Il y a aussi un aspect plus choral, avec chantons ensemble.
Il y a des jeux, animations.
Ouais, il y a des jeux aussi, qui n'est pas que pour les enfants. Si les plus grands veulent s'amuser, ils ont le droit aussi. Et puis, on peut boire un coup aussi entre potes.
Il y a un grand banquet dimanche midi.
Effectivement, il y a un grand banquet.
Dimanche midi.
Comme tous les ans, c'est le dimanche, entre 11h30 et 14h. Et pour ceux qui veulent venir en famille, c'est largement possible, parce qu'il y a des animations pour s'occuper un peu des enfants. Si les parents veulent être tranquilles aussi, c'est possible. Il y a un dessin animé pendant le banquet pour que les enfants qui, eux, s'ils n'arrivent pas de bouger de la table, et ben comme ça, au moins, ils s'occupent et c'est pour tout le monde. Parce que nous, c'est important, en fait, comment dire. Ouais. La question des enfants, quand on est de la classe ouvrière, c'est important. On ne peut pas forcément payer des gens comme ça, comme des gens qui auraient plein d'argent pour s'en occuper. Voilà. Donc, la fête, elle ouvre à tout le monde, c'est familial, c'est pour les travailleurs, il ne faut pas hésiter à venir, et c'est ouvert à tout le monde, et c'est l'occasion de faire la fête, de chanter, de s'amuser, de danser, il y a le bal le samedi soir également, voilà. Donc c'est l'occasion quand même de se détendre, tout en abordant les problèmes du quotidien qu'on a, et pas que du quotidien, ceux qui semblent un peu plus lointains, mais qui en réalité se préparent dès aujourd'hui, la guerre, parce qu'effectivement, moi j'ai envie de reprendre aussi une phrase d'un célèbre socialiste allemand qui s'appelait Karl Liebknecht, qui en plein milieu de la Première Guerre mondiale s'est opposé à cette guerre en disant notamment l'ennemi principal est notre propre pays. Il voulait dire que c'était pas, il était allemand, il voulait dire que c'était pas l'État français qui était lui aussi un ennemi, mais c'était qui c'est qui les a envoyés se faire buter, bah, c'était leurs propres dirigeants à eux, comme en France, nos propres dirigeants aussi. Et donc voilà, faut pas croire que l'ennemi il vient de l'extérieur ou que c'est un étranger. Notre propre ennemi, c'est nos propres dirigeants qui sont prêts à nous envoyer nous faire s'entretuer pour l'intérêt des plus riches. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler d'autant plus qu'en ce moment, on entend surtout, je ne parle pas ici, mais sur toutes les radios, tous les médias, quoi que ce soit, on nous parle quand même de la crise migratoire, où il y a des milliers de migrants qui sont arrivés à Lampedusa, et où Darmanin, voilà, où Darmanin, Macron, Giorgia Meloni, ils n'arrêtent pas de jouer la fermeté en disant « on n'accueillera aucun ». Sauf que qui c'est qui a pillé les pays d'où viennent ces gens-là? Qui c'est qui a mis la guerre dans ces pays-là? Bah, c'est entre autres notre propre État, l'État français, des fois qu'il y a ses armées là-bas. Et sur toute l'Europe, on est quand même 450 millions d'habitants en Europe. Même 11 000, même 20 000 personnes, c'est rien à l'échelle de toute l'Europe, en fait. Donc moi, on tient à rappeler ça. Et d'ailleurs, on aura un débat sur cette question-là avec une vidéo sur Mayotte.
Il y a des pays d'Europe. Hein, nombreux sont les pays d'Europe aussi qui ne veulent pas accueillir de migrants. Hein.
Oui, bien
c'est
sûr.
Hors de question. Il y a la Pologne, la Hongrie, l'Italie aussi.
Oui, il y a plein de pays qui...
Ils arrivent tous par l'Italie au bout d'un moment. Voilà.
Bah,
Et pourtant, l'Italie, aujourd'hui, est gouvernée par l'extrême droite. Moi, je disais que voilà... Ça n'empêche pas que voilà, ils accueillent aussi de nombreux migrants parce que.
De toute façon, les migrants, quand c'est tellement la misère ou c'est la guerre chez vous, eh ben vous êtes prêt à tout pour espérer survivre déjà ou faire survivre ou mieux vivre vos enfants, votre famille, les gens que vous aimez, vos proches. Donc c'est humain que de chercher à pouvoir avoir une vie digne, une vie correcte.
11 000 migrants en France, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi?
Ah bah moi je pense qu'on peut accueillir bien plus en France. Je sais pas si on se rend compte.
On les met où?
Mais en France on est.
On les met où? Et il y a aussi la France est une dette qui est catastrophique, c'est un véritable cataclysme. Ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les loger.
Je suis bien d'accord, mais ces gens-là, en général, ils rapportent des richesses à des patrons, et les patrons font quoi avec ces profits? Ils font leur vie.
Les patrons, aujourd'hui, il faut savoir comment se situe, comment fonctionne le système économique en France. C'est quand même très compliqué. Et puis, il n'y a pas que les patrons. C'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, il faut les soigner aussi également.
Oui, bien sûr.
Soigner. Vous savez qu'il y a. Il n'y a pas très longtemps, Bernard Covin qui était avec nous ce soir, là, je pense qu'il prendra peut-être la parole d'ici quelques instants, on était à une journée consacrée justement aux mouvements familiaux, aux associations familiales. Le Festimove, qui se déroule chaque année depuis 2 ans, deuxième édition, où on avait une association qui, justement, cette association, une association humanitaire, hein, justement, et familiale, qui disait que, qui œuvre spécialement pour faire un stop aux personnes qui sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et qui viennent en France pour se faire soigner, uniquement. Et uniquement pour ça. Et bien sûr, on prend la place d'autres qui ont besoin de se faire soigner, qui sont en France, et ils leur donnent, ils l'aident justement pour aller se faire soigner dans le pays d'où ils viennent. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui, c'est que, bon, moi je peux comprendre que, bien sûr qu'il faut passer tous ces gens-là, c'est tout à fait, il y a le côté humanitaire, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas que la France, c'est les 25 pays d'Europe.
Mais est-ce qu'on s'oppose quand il y a des dirigeants qui viennent de pays d'Afrique, d'Asie, des dirigeants qui sont des dictatures souvent appuyées par la France, est-ce qu'on s'oppose à ça quand eux ils réservent un étage entier dans l'hôpital pour se faire soigner en France, que eux-mêmes ne veulent pas se faire soigner dans leur propre pays, parce que de toute façon les moyens ils sont quand même si ça se dégrade ici, ils sont plus importants ici, et surtout pour des gens importants comme eux. Moi je pense que pour les travailleurs on fait quand même tout tourner, c'est nous qui faisons absolument tout fonctionner dans cette société-là. Le minimum ce serait justement qu'on puisse quand même dignement être soigné
à travers les taxes des travailleurs, mais c'est pour faire fonctionner, non seulement aider les personnes âgées, mais pour les hôpitaux, pour la sécurité sociale, tout ça, ça c'est sûr.
Nous, notre devise, c'est travailleurs de tous les
pays. Il n'y a pas que les travailleurs, il y a les charges patronales.
Je sais pas si moi, je n'appelle pas les charges, mais des cotisations, c'est du salaire indirect, en fait, c'est notre salaire.
Oui, mais enfin, bon, attendez, écoutez, on est d'accord, M. Bagnon, les charges patronales, c'est quand même énorme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà été à votre compte.
Moi, j'ai déjà été à mon compte, mais je vois le coût total sur ma fiche de paye.
Je garantis qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes aujourd'hui qui quittent, des personnes qui vont être à leur compte, qui s'arrêtent. C'est quand ils voient les charges patronales énormes qu'ils prennent, c'est plus qu'inquiétant. Ils reviennent au salariat quand même. Hein.
Eh ben, je dirais pas
beaucoup
ça comme ça.
Beaucoup qui reviennent au salariat. Enfin bon, moi, c'est...
En fait, c'est parce que quand on est à son compte, en général, ce qui est dur, c'est d'avoir des contrats ou des revenus qui soient suffisants pour vivre correctement. Mais proportionnellement, un salarié, il paye beaucoup plus de charges, en réalité, qu'un patron. Parce que les cotisations patronales, c'est du salaire indirect. Et moi, à part si on est au SMIC où il n'y a quasiment aucune cotisation patronale.
Un patron qui s'arrête, il n'a pas de chômage.
Hein. Bien sûr.
On est d'accord. Un patron qui s'arrête, il n'a pas de chômage. Il n'a rien.
Bah, sauf qu'un patron qui s'arrête, en général, soit c'est un travailleur qui a essayé de se débrouiller tout seul et qui est dans la galère. Sinon, les grands patrons, ils n'ont pas besoin de chômage. Hein.
Non, mais
ils ont des parachutes dorées de millions d'euros, ils ont des milliards d'euros de côté. Moi, c'est eux qui me posent problème. C'est pas...
Y compris les auto-entrepreneurs. Y compris. Non, mais ça c'est une certitude. Hein. On n'invente rien. Hein. C'est, voilà.
Après, les dernières lois, elles ont changé un peu ça en partie. Mais en tout cas, même ça, c'était un hochet agité par le gouvernement.
Moi, j'ai rencontré un chauffeur VTC qui m'a dit il n'y a pas très longtemps. Et moi, si je m'arrête, demain, j'ai rien.
Oui, mais le gouvernement, il a tiré.
Le chauffeur VTC, il gagne pas 100 000 euros par mois. Hein, on est d'accord. Hein.
Donc, je ne connais pas forcément. Mais...
Non, mais bon, j'explique. Voilà, il ne gagne pas 100 000 euros par mois, le gars. Mais c'est, demain, il arrête, il n'a plus rien. Il n'a pas un centime.
Oui, d'accord, mais comme je vous dis au début, en fait, il y a plein de reportages en permanence sur les petits patrons qui ont des galères en ce moment. Par contre, les travailleurs, qui certains commencent à vivre dans leur bagnole, qui n'y arrivent plus à tenir, qui certains, justement, qui galèrent à joindre les deux bouts, qui s'endettent juste pour ça, ou qui se mettent à revivre d'un point de vue familial parce qu'ils n'y arrivent plus, ça, on n'en parle quasiment pas. Et c'est quand même la majorité de la population, en fait, les travailleurs dans tous les pays de la planète. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on va mettre ça en avant. Parce qu'en plus, souvent, les aides données aux patrons, on nous dit, c'est pour aider les petits patrons qui galèrent. Et bien sûr, plein de gens disent, un petit patron qui galère, oui, il n'y a pas de problème pour l'aider. Sauf qu'en général, ces mêmes aides-là, elles servent pour les plus gros. Et c'est une manière déguisée d'encore arroser les plus gros, parce que proportionnellement, qui va toucher le plus ? Toujours les plus gros qui sont déjà riches à milliards. Et les travailleurs, par contre, c'est toujours, on leur serre la vis. Ils doivent payer plus cher les médicaments, moins rembourser le médecin. Ils doivent, la TVA, elle augmente. Elle augmente. Vu que les prix augmentent, forcément, mécaniquement, ça fait augmenter
Part de la taxe sur les médicaments.
La taxe sur les médicaments, mais même, par exemple, si vous payez 20% de taxe sur quelque chose et que le prix a augmenté, cette partie-là aussi, elle augmente. Tout augmente en permanence, on est saigné, et par contre, il faudrait qu'on dise merci à tout ça et qu'on accepte en se taisant. Et nous, on pense que non, on pense qu'il va falloir qu'on relève la tête et qu'on se batte contre tout ça. Mmh. Les travailleurs, par les grèves, les manifestations, mais ça commence déjà par en discuter pour savoir.
Il y a le Made in France aussi qui est là, attention, il y a le Made in France qui n'est plus là. Hein. C'est depuis que les usines de production sont à l'étranger, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. On l'a vu pendant le Covid. Hein. On en manquait tout parce qu'on ne fabrique plus rien en France. Quoi. C'est, quelque part, il faut peut-être aussi que l'État pense. C'était sur la table de l'Élysée il n'y a pas très longtemps, à renationaliser notamment EDF, entre autres, l'énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que ben, pour l'instant, voilà, on est plus sur la privatisation que sur la renationalisation. Et ça, c'est un vrai problème.
Ben, moi, je pense que le problème, ce n'est pas nationalisation, renationalisation. D'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, on peut en débattre à la fête de ce week-end. Et il y aura d'ailleurs une réunion au mois d'octobre sur ce sujet-là aussi. On fait des réunions publiques pour les environs de Lyon, les environs pour toute l'agglomération. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ce sera le vendredi 13 octobre soir.
D'accord.
Dans le quartier de Gerland, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Ou alors le. Ou une autre date, je ne sais plus, il faudra regarder sur le site internet, voilà. Mmh. Mais, en tout cas, c'est aussi, moi je pense que c'est un faux débat, parce qu'il y a des modes où des fois il faut renationaliser ou réimplanter en France, et des fois non. Mais dans les deux cas, c'est avec l'argent public, et c'est pour faire le plus de profit. Parce que là, il y en a plein d'entreprises qui nous disent « Ah, moi je suis prêt à revenir en France, mais il faut que le gouvernement et l'État, ils alignent le chèque. » Donc c'est nous qui allons payer ça, quoi qu'il arrive. Et donc c'est tout, enfin nous les travailleurs, pardon. Et donc c'est toujours ça le problème, c'est que c'est toujours aux travailleurs qu'on présente l'addition. Et nous, c'est pour ça qu'on pense que c'est un problème. Et puis, de toute façon, après, l'économie, elle est mondialisée depuis déjà des siècles, globalement.
La France est le pays le plus taxé d'Europe.
Bah, peu importe. En tout cas, ils font quand même plein de profits, malgré tout.
Ça, c'est pas une nouveauté. Hein.
Bernard Arnault, c'est quand même le plus riche du monde en concurrence avec Elon Musk.
Ça, c'est prouvé.
Et il se fait quand même plein d'argent malgré les taxes. Donc, je vais pas pleurer sur son cas.
Non, mais je parle pas qu'il n'y a pas que Bernard Arnault. Comme patron en France.
Oui, mais moi, comme je dis.
Il fait partie des nombreux patrons qui sont là en France.
Moi, ceux qui me posent problème, c'est ceux du CAC 40, notamment les grands riches. Comme par exemple ma famille Mulliez, par exemple, aussi, qui est dans la grande distribution, par exemple, comme Auchan, Decathlon, etc., qui eux, c'est. Quand même, ils s'enrichissent directement sur notre dos, parce que quand on voit que tous les prix qu'on fait les courses explosent, l'alimentaire a pris une inflation quand même à deux chiffres, c'est
20%. Les marques ont profité du Covid et ont augmenté leur prix de plus de 50%.
L'import-export aussi, quand on regarde les conteneurs.
Les marques distributeurs, ouais, vous prenez Unilever, vous prenez Nestlé, vous prenez de ces groupes qui ont doublé, quadruplé leur prix. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, les grandes surfaces, il faut qu'ils fassent leur marge aussi. Ils ont l'électricité qui a doublé.
Leur marge sur quoi, alors
Écoutez, l'électricité qui a doublé, triplé, quand on voit qu'un simple boulanger, il ferme quand même sa boulangerie, beaucoup de magasins comme Auchan, Carrefour, quelle que soit l'enseigne, l'électricité qu'ils dépensent dans la journée, je pense que c'est...
En tout cas, vous n'êtes pas pour eux, ils continuent à faire beaucoup de profits, ils sont toujours dans le top 5 ou le top 10 des fortunes françaises, en tout cas.
Et comment ils ne sont plus là, on fait comment?
Et ils font leur profit.
Combien de personnes tombent au chômage?
Mais qui fait tout tourner? C'est les travailleurs. En fait, on n'a pas besoin d'eux.
Vous savez que c'est prouvé.
C'est les parasites qui vivent sur notre dos.
Vous savez que c'est prouvé. Auchan, Carrefour, c'est pas en France qu'ils font leur beurre. Hein. Ils gagnent sur l'international, c'est fini, ils gagnent plus en France.
Bien sûr, si, ils gagnent aussi en France.
Ça, c'est prouvé. Hein. Ça, les plus grands économistes l'ont prouvé.
Ils ont plein de marge.
Allez, sur BFM Business, les grandes chaînes, tous les économistes et spécialistes en France le disent.
Et pour eux, une marge, c'est des taux de. C'est des
ils
taux
gagnent
de
sur l'international. En France, ils ne gagnent pas.
En fait, ils font du profit même en France. Mais en fait, pour eux, ce qu'ils appellent quelque chose de profitable, c'est des profits importants. Nous, on s'en moque. C'est leur problème à eux, c'est leur gestion. Moi, ce qui compte, c'est que nous, les travailleurs, on ne soit pas la crevée de faim, alors que c'est nous qui faisons tout tourner. Et que s'ils font leur beurre, justement, ces gens-là, c'est sur notre dos, sans salariés, ils n'auraient fait aucun profit.
Et est-ce que là aussi, il y a toujours le marché du travail. On peut débattre pendant des heures là, sur le marché du travail. Aujourd'hui, il n'y a jamais autant de postes de libres en France. Dans le bâtiment, on ne trouve plus personne.
Et justement, la faute à qui? La faute au patron qui ne paye pas assez.
Hygiène de vie. Auxiliaire de vie. Hein. J'ai débattu avant-hier matin avec la directrice de la résidence du château à Saint-Priest. Excusez-moi, je ne trouve plus de personnel. On n'y arrive plus.
À l'EHPAD du château, vous voyez?
Oui.
Mais justement, il y a eu une grève au mois de juin, il y a un an et demi, pour augmenter les salaires.
Ils ne trouvent plus personne.
La faute à qui? Les employés se sont mis en grève en deux semaines au mois de juin, il y a un an et demi. Et c'est pas vous en parlez. Elles ont mis des augmentations de salaire.
Dans tous les secteurs, il y a une grosse pénurie de salariés.
C'est le problème des salaires. C'est le problème que justement, vous voulez être payé au SMIC, vous cassez le dos et être cassé à 40 ans, 45 ans. Il y en a plein qui le font, ils n'ont pas le choix. Mais personne ne rêve de ça.
Je pense aussi aujourd'hui que dans la nouvelle génération, ça aussi, on en parlait il n'y a pas très longtemps dans un talk show. La nouvelle génération, aujourd'hui, ils veulent tous faire des métiers techniques, informaticiens, avocats. Voilà. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui. Dans la manutention dans le bâtiment, c'est une question de volonté aussi. Hein. Pourquoi on recrute des gens des pays de l'Est qui arrivent, qui eux sont bien d'accord pour travailler là-dedans, dans le bâtiment. Mais les Français aujourd'hui, on peut pas faire que des activités du secteur tertiaire. Hein, c'est pas possible.
En tout cas, oui, un des jeunes qui est mort, c'est un jeune de 19 ans qui est mort.
On n'encourage pas les agriculteurs. Longtemps. Les agriculteurs vivent très très mal aujourd'hui, hein, avec beaucoup moins que le SMIC. Hein, ils travaillent deux, trois fois plus. Un agriculteur aujourd'hui, il fait plus de 200 heures par semaine, hein, pour certains, hein, pour 800 euros.
Bah, en tout cas, le vrai.
Ah, vous trouvez ça normal?
Oui, sauf que le problème, c'est la faute à qui? Qui c'est qui, justement, pressure les agriculteurs? Eh bien, c'est les distributeurs, notamment les magasins. C'est aussi les.
La réforme de la PAC.
Oui, mais la PAC, c'est quoi? C'est comme... Oui, mais c'est bien de les subventionner, donc ça veut bien dire que ça ne marche pas.
Politique
le système. Et donc le système, c'est quoi? C'est un capitaliste, et derrière, c'est qu'il y en a qui veulent faire du profit dessus. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre les agriculteurs sous perfusion des fois, parce que derrière, il y a des Yoplait, il y a des Lactalis, il y a des Auchan, Leclerc, Carrefour, qui eux s'en mettent plein les poches sur leur dos. Et pas que sur celui des travailleurs ouvriers qui vont faire leurs courses, mais y compris sur les petits agriculteurs. Après, les gros agriculteurs, eux, quand nous présentait des gros agriculteurs, eux, des fois, ils sont riches en millions. Hein, donc voilà, ça dépend qui soit le agriculteur.
Je rassure une attrape.
Oui, mais par contre, ceux qui sont à la tête de la FNSEA ou quoi que ce soit, c'est des gens comme ça. Moi, je parle des agriculteurs, effectivement, ceux qui travaillent réellement, qui est donc ça pour vivre. Et en tout cas, comment dire...
Aussi, ce que je vous expliquais, justement, ceux qui ont moins de 800 euros pour vivre par mois, alors qu'ils travaillent...
Il y a plein de travailleurs aussi dans le ménage. Enfin, moins de 800 euros par mois, c'est la norme. Et c'est des femmes qui ont des horaires, c'est beaucoup des femmes, qui ont des horaires avant 5h, avant 6h du matin, ou après 20h ou 22h. Et c'est quand même les galères pour vivre. Et donc, nous, c'est aussi de ça dont on veut parler dans cette fête, parler des problèmes des travailleurs.
Alors, on va arriver à dimanche, si vous voulez, dimanche à 16h15, allocution de Michel Piau, qui est un de vos délégués régionaux, c'est ça?
Ouais, c'est un de nos porte-parole,
porte-parole régional
sur Lyon et les environs.
Qui va parler aussi de l'inflation, des problèmes de travailleurs chez Renault Truck.
C'est un travailleur de Renault Truck, effectivement. Donc, il connaît très bien ce que c'est la situation dans les usines, parce que c'est son quotidien. Et effectivement, c'est pour parler.
Qu'est-ce qui se passe chez Renault Truck, alors?
Comme de partout, c'est quand même les salaires, ils ne suivent pas le coût de la vie. Les cadences, c'est les cadences qui sont élevées, c'est la flexibilité, je trouvais plus le mot, excusez-moi, la flexibilité au quotidien, c'est-à-dire des jours, il faut ne pas travailler parce que les livraisons ne sont pas arrivées, puis le lendemain, faire des heures sup, parce que la livraison est arrivée, donc il faut s'adapter comme ça au quotidien, et si vous avez une vie de famille, des soucis perso ou des problèmes de santé, c'est votre problème, c'est pas celui de l'employeur, c'est à vous de cravacher pour tenir la cadence en permanence, c'est comme de partout cet été, c'est les chaleurs incroyable, avec quasiment rien mis en place pour... il a fallu que les travailleurs se mobilisent en partie justement pour régler ça. C'est toute cette situation-là, par exemple à Renault Trucks. Bon, lui, il vous en parlera mieux que moi, parce que lui, il le vit réellement. Mais c'est quand même ça, ce qui se passe là-bas. Donc voilà. Et tout ça aussi au nom de maintenir l'emploi, au nom du défi électrique, au nom d'etc. Et c'est toujours comme ça. Mais c'est sur la peau des travailleurs que ça se fait.
On parle des faits de société depuis un petit moment maintenant. Ne pas oublier que le 23 et 24 septembre, samedi et dimanche, à partir de 11h30 et de 17h à 19h, ce 23 et 24, la fête de lutte ouvrière, l'espace mosaïque à Saint-Priest, c'est avant tout une fête aussi pour les militants et limitants et les sympathisants.
Et tous ceux qui veulent venir pour découvrir nos idées ou qui veulent partager ce combat avec nous.
De nombreuses choses à faire. Peut-être notre ami Bernard Covin qui est avec nous, une question à poser. Bernard.
Non,
du tout.
Bonsoir.
Jean-Charles Fagnou, peut-être une question à lui poser, conclusion.
Non, j'ai rien à. J'ai rien à rajouter, moi.
Rien à rajouter, Bernard. D'accord. Je sais pas ce que on se regardait. J'ai tiens peut-être quelque chose, une question à poser ou une réflexion, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on vient de dire.
En tout cas, si.
C'est avant tout une fête, on va dire, la fête de lutte ouvrière.
Exactement.
Je rappelle aussi qu'il y a des jeux. Les enfants peuvent venir aussi également.
Bien sûr, c'est tout gratuit invité, pour même les enfants les de moins de 14 ans. D'accord. C'est gratuit pour les enfants et les jeunes ados. Il y a des jeux, il y a des animations, il y a des plantations de livres.
Il y a un banquet dimanche à midi pour participer et partager des moments ensemble.
Effectivement, il y a des présents. Il y a plein de choses.
Et des ateliers réflexion. Parce qu'il y a de la science aussi, il faut dire.
Effectivement, il y a des ateliers sur la science, sur l'intelligence artificielle, sur les batteries, comme j'ai déjà dit, sur les causes de la
l'intelligence artificielle, c'est un vrai dossier. On aura l'occasion de revenir plus tard, mais c'est un vrai dossier, en tout cas.
Également sur l'infini aussi, en mathématiques. Et pas que le fait qu'à une époque, la religion, elle s'est opposée à cette notion-là. Il y a plusieurs siècles en arrière, quand l'infini était introduit en mathématiques. Il y aura aussi des présentations de livres sur l'Asie, sur la classe ouvrière aux États-Unis, où d'ailleurs en ce moment il y a une grève des trois grands groupes que sont General Motors, Ford et Stellantis. Stellantis, c'est entre autres un groupe français, hein, c'est l'ex-Peugeot, Fiat, Chrysler. Voilà, il y a une grève pour l'augmentation des salaires et j'espère que ça donnera envie à d'autres travailleurs américains, mais pas que, en France et ailleurs, de faire grève également. Il y aura une présentation de livres sur la religion en tant qu'opium du peuple, pour reprendre la célèbre phrase de Marx.
D'accord.
Il y a également d'autres débats. Donc, on a déjà parlé de celui de Nathalie Arthaud. Il y en aura un autre sur la marche à la guerre. Un sur la situation des hôpitaux, dont j'ai déjà parlé, mais également un sur les violences policières comme un reflet de la violence sociale, le samedi à 21h. Il y aura également aussi des différentes vidéos documentaires suivies de débats, avec notamment donc un sur les révoltes contre la guerre du Vietnam dans l'armée américaine, c'est le samedi soir. Un autre encore le samedi soir sur la chasse aux pauvres, la chasse aux migrants à Mayotte. Un autre sur l'anniversaire de la grève de l'IP, une grève qui est en 73 dans... dans le Jura, si je dis pas de bêtises, en tout cas, et qui faisait des horloges et des montres, notamment des horloges pour l'industrie automobile, et d'accord. qui a dû fermer un peu le jour au lendemain. Il y a eu une grève où les ouvriers sont pris en main, donc c'est un peu parler de ça.
Exposition aussi, également, puisqu'il oui. y a aussi de belles choses à voir sur...
sur l'impérialisme français au Sahel, sur le...
La révolution ailleurs.
La révolution allemande, entre 1918 et 1923, c'est l'anniversaire de 100 ans, et c'était quand même quelque chose dont on a à apprendre, parce que c'est une révolution qui est peu connue, et qui a failli quand même faire basculer la planète entière vers le communisme à cette époque-là. Donc voilà. Donc pour nous, c'est un événement important. Et il faut en tirer les conclusions, mais aussi, il y aura une exposition sur la guerre en Ukraine, c'est toujours d'actualité, elle est toujours là. Même si pour plein de gens c'est passé au second plan parce que les médias en parlent moins, mais quand même, il y a quand même plein d'endroits où en France, des bases d'entraînement militaire, ils recreusent des tranchées pour s'entraîner à cette guerre-là, en prenant exemple sur l'Ukraine, parce que c'est un véritable terrain d'entraînement pour les armées françaises, anglaises, américaines, qui envoient des armes, qui permettent de tester leurs armes là-bas, qui voient les stratégies, les techniques, et qui essayent de les adapter à leurs propres armées. Donc c'est quand même notre avenir qui est un reflet de ça, donc il y a une expo là-dessus. Et il y a aussi des expos sur les différentes entreprises où on intervient dans la région, alors pas toutes, mais notamment justement dans la pharmacie, dans la chimie, dans l'automobile, dans les hôpitaux, chez les cheminots, voilà, présentés par des camarades et des travailleurs qui travaillent là-bas, donc qui peuvent parler de première main de ce qui s'y passe.
Très bien. Monsieur Vagnou, merci en tout cas d'être,
merci de m'avoir accueilli.
Vagnou, d'être intervenu sur notre antenne durant cette petite heure. On va rappeler les dates, 23 et 24 septembre, Espace Mosaïque à Saint-Priest, fête de la lutte ouvrière. Un site internet, on peut retrouver tout le programme.
Effectivement, c'est Lutte Ouvrière sur internet, tout simplement.
Et puis à la page Facebook, j'imagine.
Exactement, il y a les réseaux sociaux, et c'est www.lutteouvrière.org, et ça se trouve facilement.
Et on aura tout le programme pour ceux qui veulent faire un petit tour.
Exactement.
Et on rappelle que c'est ouvert à tous.
Voilà, venez pour débattre. C'est ça qu'il faut pour profiter de l'ambiance festive entre travailleurs, entre camarades.
Jean Fagnour, en tout cas, merci d'être intervenu sur notre antenne, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on vous souhaite une bonne fête pour ce week-end. On vous retrouvera, je vous rappelle, pour la 76e édition de la Foire de Saint-Priest, pour que vous serez présent comme chaque année à la foire.